En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi,
quoi de mieux que prendre l'Alléluia Pascal pour la fête du Christ roi? Car aujourd'hui, Pâques est devenu public, Pâques est devenu visible à tous les hommes, croyants ou non. Nous sommes encore dans le temps de l'Église, entre la résurrection et la venue glorieuse du Christ, et nous vivons dans l'obscurité du mystère. Nous croyons au Christ ressuscité, mais nous ne le voyons pas. Au jour de sa venue glorieuse, lorsqu'il fendra l'horizon comme l'éclair qui illumine le ciel, en un seul instant, le Christ viendra dans la puissance de sa gloire, et alors tous, nous le verrons en pleine lumière, et ce sera l'heure du jugement dernier, l'heure de la résurrection et de la rétribution finale. La liturgie de la fête du Christ roi de l'univers nous invite donc à vivre ce temps de l'Église avant la venue glorieuse comme un entraînement pour entrer dans ce royaume et pour y faire entrer ceux qui nous entourent. Mais ce royaume, eh bien, il nous faut peut-être chercher à mieux connaître ce qu'il est pour nous entraîner à y entrer. Il nous faut entrer dans le royaume du Christ. Mais quel est ce royaume? J'aimerais contempler avec vous, ou plutôt montrer ce qu'il n'est pas, avant de montrer ce qu'il est. Ce qu'il n'est pas. Le royaume du Christ, le royaume de Dieu, n'est ni un royaume politique, ni un royaume visible, ni même un royaume inatteignable. Le royaume du Christ, le royaume de Dieu, n'est pas un royaume politique. Souvenez-vous, Jésus qui disait à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. » Jésus s'échappait, se cachait lorsqu'on voulait le faire roi. Ainsi donc, l'Église, à la suite de son maître, n'a jamais eu la prétention de se confondre avec le pouvoir politique. Et elle a toujours condamné comme une grave dérive ce qu'on appelle le millénarisme, croire que l'on puisse avoir un pouvoir politique qui se confonde et qui soit entièrement au service du royaume de Dieu. Il ne nous faut donc pas rêver d'une forme politique plus que d'une autre. Il nous faut admettre que toutes les formes politiques ont leurs limites et que finalement, aucun pouvoir politique, aucune forme politique ne nous donnera l'objet de notre espérance, qui est la béatitude éternelle, la vision de Dieu face à face. Non, comme chrétiens, nous ne sommes pas appelés à rêver et à être dans l'indignation de salon qui nous fige pour mieux nous stériliser, mais nous sommes invités à être pragmatiques. Dieu t'appelle ici, aujourd'hui, dans ce monde, engage-toi ici, avec sa grâce et avec l'espérance qui pourra te faire soulever des montagnes. Ce n'est donc pas un royaume politique, même si, évidemment, nous sommes invités à nous engager en politique. Le royaume de Dieu n'est pas non plus un royaume visible. Il a été tentant pour certains courants spirituels, tels que les cathares ou les vaudois, de prétendre être si purs qu'ils se confondaient avec le royaume de Dieu. Et l'Église elle-même n'a jamais prétendu qu'elle était le royaume de Dieu. Comme si toutes les âmes qui étaient dans l'Église étaient parfaitement saintes, parfaitement en état de grâce, parfaitement purifiées de tout péché. Non. L'Église n'est pas le royaume de Dieu, du moins l'Église militante. Mais le Concile Vatican II nous dit que l'Église, elle est le germe et le commencement du royaume de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que si on veut entrer dans le royaume de Dieu, il faut bien passer par l'Église. Car l'Église, elle est là pour nous sanctifier et elle est sanctifiante. C'est pour cela qu'elle est sainte. L'Église, donc, si elle n'est pas le royaume de Dieu, le permet et l'instaure en nous permettant de nous réformer en permanence. La hiérarchie de l'Église n'a jamais été parfaite et elle ne sera jamais parfaite sur la terre, mais à travers elle nous est donné le don assuré et infaillible de la miséricorde dans la confession, dans le baptême, dans l'Eucharistie. Indépendamment des vertus du ministre, le Christ se donne toujours saintement, parfaitement, souverainement à travers son Église et à travers les sacrements qu'il a institués. Donc l'Église n'est pas le royaume de Dieu, mais elle en est le germe et le commencement. Le royaume de Dieu n'est pas non plus un royaume inatteignable et promis pour la fin des temps seulement. Le bon larron dit à Jésus « Souviens-toi de moi à la fin des temps quand tu viendras ». Et Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis ». Saint Paul nous dit que le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est donc maintenant, sur la terre, que nous devons y entrer et y entrer toujours davantage, en devenant toujours plus dépendants du Christ, de son règne sur nos âmes. Les saints ne sont pas ceux qu'on pense, et ainsi le royaume de Dieu, s'il est présent dans le cœur des saints, n'est pas présent seulement dans le cœur des saints canonisés que l'on connaît bien. Chers amis, le premier des saints canonisés, c'est le bon larron, canonisé par Jésus-Christ en personne. C'est le bon larron. Quelle espérance pour nous. Alors justement, si nous voyons que le royaume de Dieu n'est ni politique, ni visible dans une forme extérieure, ni inatteignable, eh bien, contemplons avec le bon larron ce qu'il est. Le bon larron fait partie de cette aristocratie des pécheurs de l'Évangile, de ces maîtres spirituels qui, dans leur grande misère, laissent la gloire du Christ, le règne du Christ siéger en eux. Avec le bon larron, nous apprenons que le royaume de Dieu est un royaume surnaturel, un royaume invisible, mais qui doit se concrétiser. Un royaume surnaturel, comme nous le chanterons dans la préface, royaume de vérité et de vie, royaume de sainteté et de grâce, royaume de justice, d'amour et de paix. Oui, le règne du Christ est un règne paradoxal, de même que notre roi est un roi paradoxal. C'est un crucifié que nous acclamons aujourd'hui comme le roi de l'univers, le créateur de tout, celui en qui tout fut créé et en qui habite toute plénitude. Et voici qu'au jour tragique de sa condamnation à mort, le bon larron, Saint Dismas, rencontre son sauveur et son créateur en étant crucifié avec lui. Cette rencontre est bouleversante. Il entend Jésus, il voit Jésus. Le passage qui précède notre évangile, c'est le procès de Jésus avec sa flagellation, avec son couronnement d'épines, avec le portement de la croix. Jésus est accablé, il subit un océan de violence et sans se décourager, il marche vers le supplice. Et alors, Jésus est allongé sur la croix par ses bourreaux, il fixe le regard vers le ciel et comme un prêtre, il a les bras étendus sur la croix, comme pendant la messe, et il s'écrie « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Là, Jésus est prêtre en intercédant pour tous ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et le bon larron voit que les chefs du peuple l'insultent. Il voit que les soldats l'insultent. Il voit que même l'autre malfaiteur l'insulte. Un océan de violence s'abat sur Jésus-Christ. Et alors le bon larron entend cette parole, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » S'il avait pu douter de l'identité du Christ, le voilà en présence d'un innocent qui crie miséricorde pour ceux qui l'accablent. Ce fleuve, cet océan de violence qui s'abat sur l'innocence du Christ, c'est le combat entre deux royaumes, le royaume de Satan, le prince de ce monde, et le royaume du Christ, qui règne par sa douceur toute puissante. Aussi puissantes peuvent être les puissances qui font du bruit, qui font la guerre, qui font du mal. Elles sont au plus proche de leur ruine, devant la toute puissance du Christ et de sa miséricorde, de son pardon. Jésus triomphe du mal en le laissant venir sur lui, et il le subvertit pour mieux l'écraser. Oui, le bon larron a entendu le Christ, il a découvert la douceur d'un roi bien différent des rois terrestres, et il a vu. Il a entendu la douceur et il a vu le regard du Christ se poser sur lui. Saint Augustin commente en s'adressant lui-même au bon larron, « Comment as-tu fait pour le comprendre ? Avais-tu, entre deux brigandages, pris le temps d'étudier ces livres saints que les spécialistes n'avaient pas su lire ?» Il prête alors au larron cette réponse admirable. « Non, je n'avais pas scruté les Écritures. Non, je n'avais pas médité les prophéties. Mais Jésus m'a regardé et dans son regard, j'ai tout compris. » Chers frères et sœurs, à chaque messe, nous sommes au pied du mystère de la croix glorieuse du Christ, et nous sommes tous comme le bon larron. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. À chaque confession, nous sommes au pied du Christ qui verse tout son sang pour nous personnellement, tout son sang sauveur. Il a versé tout son sang pour nous laver, pour nous sauver. Comme le bon larron, accueillons cette douceur infinie du Christ qui ne nous appelle pas en nous dominant, mais qui est l'humble agneau de Dieu, plus puissant que tous les rois de la terre réunis. Accueillons cette grande miséricorde du Christ et vivons de ce royaume du Christ sur nous. Néanmoins, si nous accueillons le royaume de Dieu dans notre vie, ce n'est pas pour vivre une piété individualiste et solitaire. Nous sommes appelés à construire, à édifier ce royaume dès maintenant sur la terre, même si c'est imparfaitement. Celui qui a rencontré l'amour infini du Christ veut le répandre dans sa vie d'abord, dans sa famille, dans son métier. Les chrétiens, à un titre spécial, sont appelés à s'engager dans la société, plus encore quand elle est malade, quand elle est gangrénée. Nous ne pouvons pas, comme chrétiens, devenir une communauté parmi tant d'autres dans une société atomisée, comme si nous étions finalement relégués au rang de communauté que l'on pourrait taxer de communautarisme. Les chrétiens sont à la fois une communauté et un trait d'union entre toutes les communautés. Et si nous désertons l'engagement politique à toutes les échelles, eh bien, nous perdrons ce rôle important. Bien sûr, il y a la politique, mais il y a l'économie, la vie sociale, les associations, etc. Le pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, a laissé toute une spiritualité de l'engagement politique qui s'appelle donc sur la, qui parle de la charité sociale et de l'amitié sociale. Il décrit la politique comme l'une des plus hautes formes de la charité. Notre monde, notre pays meurt de n'avoir pas d'hommes politiques suffisamment engagés par charité. Il y en a bien sûr, mais il n'y en a pas assez. La charité doit motiver l'engagement politique dans un engagement désintéressé qui est un véritable sacrifice à consentir. La difficulté pour accueillir le royaume du Christ en nous et dans notre société, c'est d'accepter de dépendre du Christ, dépendre de son règne, dépendre de ses lois. Alors remettons-lui en cette Eucharistie notre corps, notre âme, nos biens intérieurs et extérieurs. Remettons-lui notre temps, le temps que nous lui consacrons ou pas. Remettons-lui notre argent, remettons-lui notre vocation et celle de ceux qui nous entourent ou qui nous sont confiés. Remettons-lui nos ambitions. Que Jésus règne véritablement sur nous, sur nos familles. Notre vie dans le temps de l'Église est un entraînement pour accueillir ce règne du Christ. N'ayons pas peur de nous livrer et de nous perdre pour le Christ. N'ayons pas peur de perdre pied. Il est la véritable fondation. Il est la véritable solidité de notre vie. Il est le véritable roi. On peut être esclave du Christ seul, car Jésus, eh bien, restitue la liberté complète à ses serviteurs. En cette Eucharistie, donc, accueillons son règne et demandons-lui la lumière pour l'accueillir davantage là où il ne règne pas assez. Amen.